Bonsoir à toutes et à tous. Et je me suis dit, ce soir, on va avoir un problème de savoir qui va commencer le premier. Parce que mon nom, comme vous le savez, est Swami Adwayananda, et qui est aussi mon vrai nom officiel maintenant. Et puis nous avons aussi le père Arul Valaprasada. Les deux commençant par un A, et lui c'est AR, et moi c'est AD. Sans savoir que les organisateurs, principalement Iris, avaient déjà choisi le Adwayananda AD. Alors, comme il l'a dit, bon, je suis né effectivement dans une famille catholique de Sainte-Anne. Ma grand-mère était très pratiquante, puisque elle était une des personnes qui a aidé à la construction de l'église de Sainte-Anne. Et déjà très petit, bon, j'ai perdu mon père à l'âge de 9 mois. Donc j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma mère a eu un parcours de vie un peu particulier aussi. Donc ce qui fait que j'étais plus proche de ma grand-mère que de ma mère par mon enfance. Et donc, bien sûr, le dimanche, il fallait aller à la messe. Et pour moi, c'était un plaisir. Le soir, les prières. Et bien sûr, ma grand-mère, son rôle à l'église, c'était principalement de ramasser la quête. Et donc, souvent, on était à la cure de l'église de Sainte-Anne, avec l'ancien prêtre qui était là. Et bon, moi j'aimais bien cette atmosphère-là, puisque quand je quittais l'école le soir, mon plaisir, c'était d'aller à l'église avant de rentrer à Petit-Saint-Pierre, puisqu'on habitait à Petit-Saint-Pierre, d'aller à l'église faire mes chapelets. J'adorais faire mes chapelets, la prière pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, avant de dormir le soir, on faisait la prière, avant de. Le matin aussi, en se levant, on faisait quand même quelques petites prières. Et donc, mon enfance a été bercée par la religion. Et bon, bien sûr, la religion catholique. Et puis aussi la crainte de l'autre religion qui existait dans la région, la religion malbare. Alors, ma grand-mère, qui était commerçante, on va dire, en vanille, aller du côté de Basse-Vallée, Saint-Philippe, etc., acheter de la vanille pour revendre cette vanille à cet André, chez un certain monsieur De Floris. Et elle avait acheté une camionnette. À l'époque, bon, elle avait un chauffeur. Moi, je me retrouvais à l'arrière de la camionnette, surtout le soir, lorsqu'on montait sur Sainte-Anne. Il n'y avait pas encore la quatre voies de Saint-Benoît de maintenant. Il fallait passer par Beaufont. Et lorsque on s'approchait de la chapelle Malbar de Beaufont, je commençais déjà à trembler, en pensant que les esprits allaient me sauter dessus, etc. Moi, j'ai grandi dans cette atmosphère, donc de dualité, on va dire, où le christianisme, le catholicisme principalement, est le bon, et le malbarisme, la religion malbare, on va dire, et bien sûr, le mauvais. Et moi, dans cette enfance où, comme j'avais plus de père, ma mère s'est remariée, bon, je ne m'entendais pas vraiment bien avec mon petit-père. Peut-être qu'à l'église, devant les statues, parce que l'église de Sainte-Anne était à l'époque remplie de statues de Saint-Joseph, Saint-Antoine, de Sainte-Anne, bien sûr, de la Vierge Marie. Et un de mes terrains de jeu aussi était la chapelle Sainte-Thérèse de Sainte-Anne, qui est très connue maintenant, puisque c'est, je crois, un monument historique. Et donc j'allais passer mes après-midi, le dimanche après-midi, par exemple, à l'église à Sainte-Anne, à faire le tour des statues, à réciter les chapelets, les prières, etc. Et donc, c'est vrai que, avec cette pratique religieuse que j'avais, j'étais presque une sorte de mystique, et en même temps, avec une démarche peut-être de missionnaire, où un soir j'ai demandé à Dieu de me donner la possibilité de convertir les Malbars. Comme j'ai dit plus tard, Dieu, bien sûr, a entendu ma prière. Il a dit, va apprendre l'hindouisme avant et on verra après s'il faut convertir les Malbars. C'est vrai que dans cette atmosphère de l'époque, la religion Malbar et tout ce qui n'était pas catholique, je dirais, puisque les adventistes commençaient, les témoins de Jéhovah aussi, surtout les adventistes commençaient à faire leur travail, disons, de conversion des catholiques vers la religion adventiste. Donc lorsqu'ils venaient à Sainte-Anne, ben, c'était tout juste s'ils n'étaient pas reçus à coups de pierre, etc., avec des insultes, avec la tolérance que l'on peut avoir dans les villages, et surtout à cette époque-là. Alors quand j'avais 11 ans, ma grand-mère est décédée un soir, elle était malade du cœur, elle n'a pas voulu se faire soigner parce qu'il fallait aller en France métropolitaine. Bon, créole, on dit en France, tout simplement, c'est un lieu géographique, c'est pas de la politique. Et donc, bon, j'habitais tout seul avec elle, elle est tombée du lit, heureusement, et ça m'a réveillé. Et donc, j'ai appelé mon oncle qui habitait juste à côté. Et à partir de ce moment-là, ma vie a basculé, puisque ma grand-mère avait prévu son départ et avait demandé à mon oncle de s'occuper de moi après son décès. Et s'occuper de moi parce que ma mère avait donc s'était remariée et la famille reconstituée était très nombreuse. On était 10 enfants. Et probablement, ils ont vu que j'étais assez turbulent et peut-être aussi que j'avais des possibilités de réussir à l'école. Donc, mon oncle était en charge d'assurer mon éducation future. Alors, comme c'était l'époque de Michel Debré, de la départementalisation plus avancée que dans les années 50 et 40, bien sûr, donc la chose la plus simple, c'était, comme on disait à l'époque, d'envoyer son enfant à la population. Donc, en novembre 1964, je me suis retrouvé à la PEP, à Elbourg, qui était un foyer de l'enfance, donc avec toutes sortes de groupes. Il n'y avait que des garçons, il n'y avait pas de filles à la PEP à Elbourg. Et bon, ben, j'avais toujours cet élan religieux, cet élan catholique. Et bien sûr, mon premier devoir, c'était d'aller trouver le prêtre d'Elbourg. Il n'y avait pas d'église à l'époque, puisque l'église avait été détruite par le cyclone. Et donc, il y avait une petite église, probablement une ancienne école. Salle de classe qui était transformée en église. Et donc, je suis devenu ami avec le prêtre. Et bien sûr, comme à Sainte-Anne, où j'étais aussi enfant de chœur, je me suis retrouvé aussi enfant de chœur. Donc, à Elbourg. Je suis resté à Elbourg, donc, de 1964 à 1966. Et pareil, là, à Elbourg aussi, bon, mon passe-temps, c'était d'aller me promener dans les petits sentiers qui existaient à l'époque. Maintenant, probablement, ce sont des routes qui allaient vers des petits villages, dans les alentours, etc. Et partout, il y avait des petites niches avec des statues de vierges, de saints. Et donc, mon plaisir, c'était de prier. Et même souvent, lorsqu'on était en vacances, ou bien lorsqu'on était, il y avait un jour de férié ou un dimanche après-midi, ben, je prenais, parce qu'on était relativement libre dans ces foyers-là, j'allais tout seul dans la forêt avec mon chapelet. Et je me mettais dans un coin, dans la forêt, à réciter mes chapelets. Donc, ce qui veut dire que j'étais vraiment très, très branché religion et bien sûr avec l'envie de devenir plus tard prêtre catholique, pas forcément pour convertir les Malbars, parce que ça, c'était devenu un petit peu secondaire dans ma démarche, mais je voulais être saint. Ça, c'était aussi une démarche que j'avais quand j'étais petit. Et un livre qui m'avait marqué à l'époque, qui m'avait été prêté par les sœurs qui s'occupait d'une école à côté de la PEP à Elbourg, c'était La vie de Sainte Thérèse. Et je me souviens, bon, c'est un livre à l'ancienne, bien sûr, je me souviens d'une scène où Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc de Lisieux, voyant un soir une constellation dans le ciel, former une sorte de T, et donc prendre ça comme un signe d'appel du divin. Et comme mon nom de famille, c'était Cher, donc quand je voyais le T, pour moi aussi, c'était un appel du divin, et comme on le sait, c'est la constellation d'Orion qui a cette forme de T. Pour ça, c'est beaucoup plus tard. Et donc, je voulais être saint. Mais en même temps, bon, j'avais quand même mon adolescence. Avec mon adolescence, je n'étais pas parfait non plus. Il y avait toutes sortes de désirs qui apparaissaient en moi, naturels, bien sûr. Et il fallait confesser ça. Donc, j'allais confesser, j'allais raconter tout au prêtre qui m'écoutait, bien sûr, avec gentillesse et tout. J'étais tellement emballé dans ma confession que je rajoutais des péchés que je ne faisais pas forcément. Et je terminais la liste en disant: pardonnez-moi mon père parce que j'ai menti. Alors, vous voyez, c'est un peu cet état infantile même qu'on a lorsqu'on est jeune et enthousiasmé. Et là où les choses ont encore plus changé, c'est lorsque j'ai demandé à vouloir aller au séminaire de Sillaos, puisque à l'époque on pensait au séminaire de Sillaos pour suivre une formation de prêtre catholique, et les assistantes sociales de la DAS, donc de Saint-Denis, n'ont pas accepté ma démarche en disant: il est trop jeune, il doit faire son choix beaucoup plus tard. Alors à l'époque aussi, c'était, on envoyait les enfants en France métropolitaine. Je voyais mes camarades partir. Et donc, je me suis dit, pourquoi pourquoi pas, voir la neige, voir des pommiers, des poiriers, manger des pommes sur place, etc. Parce que des pommes, à l'époque, c'était rare. Donc, le paradis, la tour Eiffel, Paris, parce que mon oncle voyageait, donc il envoyait des cartes postales. Donc, je voyais tous ces schémas, tous ces clichés qui étaient là. Et j'ai demandé à partir, contrairement à beaucoup d'autres enfants qui étaient expédiés là-bas, moi, c'est moi qui ai demandé à partir en France métropolitaine, sans savoir où on allait atterrir. Puis un jour, on a eu une réunion d'information. Et on nous a dit, vous allez dans la Creuse. La Creuse. Vous connaissez Ravine-Creuse? Et là, on a joué sur les mots Ravine-Creuse, la Creuse, etc. Et donc, en août 1966, je suis parti en France métropolitaine, par le Bémidom. Et donc, je me suis retrouvé dans la Creuse. Et là, ben, j'ai essayé de m'intégrer encore dans l'église catholique de Guéret, puisque j'étais à Guéret, et j'ai pas retrouvé cette chaleur qu'il y avait à La Réunion, cette atmosphère dans l'église donc du Guéret. Peut-être que j'avais pas fait l'effort aussi nécessaire, mais la structure même, l'architecture de l'église, je trouvais ça froid, etc. J'ai assisté à des messes et tout. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure, ben, je me suis éloigné un peu de la religion catholique. Mais en même temps, j'avais quand même parfois je dirais des crises de religiosité. Dans la chambre du foyer de l'enfance à Guéret, je faisais mes prières et puis ce que j'avais envie de faire, je dirais. Après, en étudiant l'histoire, bon, j'étais surtout choqué par l'Inquisition. Tout ce que on pouvait faire à l'époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, au nom du sacré, au nom du divin. Donc ça m'avait énormément choqué. Donc au fur et à mesure, la religion est devenue secondaire en ce qui me concernait. Mais quelque part, il y avait l'attrait de l'Inde qui était là. Bon, j'étais pas hippie. Pourtant, c'était les années hippies. J'étais pas hippie puisque je devais avoir 14, 15, 16 ans, etc. J'aimais bien voyager en rêve. Et bien sûr, mon premier rêve, c'était de retourner à La Réunion. Et pour voyager en rêve, je m'étais abonné à une collection de petits livrets, de petits magazines sur les pays. Donc tous les mois, on m'envoyait cette collection. Et un jour, j'avais tellement de livrets que j'ai tout jeté, sauf un, qui concernait l'Inde. À l'époque aussi, c'était la télévision en noir et blanc. Et il y avait un film, un feuilleton. Il y avait un éléphant avec un petit jeune en Inde, ça se passait en Inde, et le nom s'appelait Maya. C'était pas Maya l'abeille, Maya. On va voir que c'est un petit peu très particulier comme nom. Bon, comme ça se passait en Inde, ça me disait quelque chose. C'est peut-être par rapport à l'exotisme, c'est peut-être par rapport à ce que j'avais refoulé en moi par rapport aux chapelles dont j'avais peur quand j'étais tout jeune, etc. Donc, il y avait toujours cet attrait de l'Inde. Bon, je suis resté à Guéret jusqu'en 1971. J'étais en première. Entre-temps, j'ai reçu une lettre d'une famille de la région parisienne voulant me parrainer. Me parrainer, je dis, me parrainer à La Réunion, je ne comprenais pas très bien. Bon, ils m'ont invité à passer des vacances avec eux. Ils étaient une famille très bourgeoise, on va dire, de région parisienne, qui connaît la famille des Rothschild qui recevait en cadeau des caisses de vin de Bordeaux, etc. Donc je suis allé en vacances chez eux pour mieux se connaître. Et puis après, bon, ils m'ont proposé de venir habiter chez eux et de finir ma terminale au lycée pilote de Sèvres. Donc l'année 71-72, j'étais au lycée pilote de Sèvres. Un lycée pilote, c'est un lycée où on teste les idées pédagogiques. Et donc, bon, à Sèvres, c'était ma terminale, ma dernière année. Et là, bien sûr, plus question de religion, je voyais plutôt mon avenir professionnel. Après le bac, alors j'ai eu un bac littéraire, à l'époque c'était A, avec bien sûr philo et français. En sixième, j'ai passé, en terminale, en première, pardon, j'ai passé mon français, j'ai eu 6. Donc un note de français. Et en terminale A, donc en terminale littéraire philosophie, le jour du bac, j'ai eu 3 en philo. Alors que tout au long de l'année, c'était 11, 10, 9. Bon, ce n'était pas des grosses notes, mais le professeur aussi n'était pas très généreux, on va dire. Et puis j'étais choqué de voir ceux qui ne faisaient rien pendant l'année avaient de bonnes notes le jour du bac. Et moi qui travaillais régulièrement, ben, 3. Heureusement pour moi, à côté, j'avais de bonnes notes en langue, en histoire géo, etc. Ce qui fait que c'est après 68 aussi, hein, ça, faut voir ça. Et donc, j'ai eu mon bac avec mention assez bien, avec l'oral de rattrapage. Donc, après le bac, que faire? Être médecin? La famille d'accueil m'a dit, oui, mais c'est des études très longues, on n'a pas les moyens de te garder très longtemps. À l'époque, la majorité, c'était 21 ans, donc j'avais déjà 18 ans. Donc, il fallait trouver une formation courte. Et la formation qui m'est venue à l'esprit, c'est bien sûr le commerce, puisqu'on sait très bien qu'à La Réunion, le commerce, ça marche très bien. Donc, je me suis inscrit à l'IUT de Paris en technique de commercialisation. Moi, qui ne suis pas du tout commerçant, je me suis retrouvé en technique de commercialisation avec comptabilité, etc. Et entre les deux années d'IUT, il y a un stage à faire dans une entreprise. Étant pistonné par le père d'accueil, je dirais, je n'étais pas père adoptif parce que je n'étais pas adopté, par le père d'accueil, donc on m'a trouvé une société qui travaillait avec la Chine. Et la Chine, à l'époque, la Chine de Mao Tse-tung, était très très fermée. Donc je suis allé faire ce stage de 3 semaines, je crois, dans cette entreprise. Et là, comme c'était une des rares entreprises qui travaillait avec la Chine, ils avaient des livres, des magazines de propagande, bien sûr, mais dans lequel il y avait des cours de chinois. Et donc, moi qui aime bien les langues, je me suis intéressé au chinois. Donc, je me suis inscrit au Lanzhou. Les cours, c'était à l'université de Dauphine. Et donc, j'ai fait 2 ans de chinois. Il fallait faire 3 ans pour avoir ce diplôme. J'ai fait 2 ans, je vous ai expliqué pourquoi après. Et donc, voilà, l'IUT est terminé. J'ai fait mon service militaire, encore une fois pistonné. J'avais le choix entre l'école militaire à Paris ou sinon à La Réunion. Alors l'avantage de l'école militaire, c'est que vous avez un laboratoire de langue très efficace pour l'époque. Et donc pour moi, le chinois, c'était vraiment très important. Et pourquoi j'étais pistonné? Parce que le frère de la dame chez qui j'habitais était un général 3 étoiles. Donc il avait ses entrées là où il fallait. À l'époque, c'était facile, quoi. Donc j'ai fini mon service militaire. Je n'ai fait que 6 mois de service militaire. Je suis toujours adoya, ça veut dire unique, hein, très spécial. Au bout de 6 mois de service militaire, bon, j'ai fait une syncope un matin, bon, plus par fatigue que par autre chose, et on m'a envoyé à l'hôpital, et là, j'ai joué la comédie en faisant croire que c'était l'épilepsie. J'ai passé des mois, vous voyez, le sein était bien loin, bien sûr. Et donc, 6 mois d'armée, bon, 2 mois de préparation, plus 4 mois à l'école militaire. Tous les soirs, je rentrais à la maison, ou alors je continuais mes cours de chinois à l'université. Et puis, le laboratoire de langue aussi, à l'école militaire. On travaillait 1 heure de temps le matin, passer le râteau dans le gazon, et 1 heure de temps l'après-midi, ramasser les poubelles. Donc, et le reste du temps, j'étais libre. Il y a d'autres qui étaient sur leur lit, bon, à lire toutes sortes de dessins, etc. Moi, j'étais en laboratoire de langue à améliorer mon chinois. Mais mon but, c'était de retourner à La Réunion. Et après l'école militaire, après donc l'armée, lorsque je n'étais pas encore réformé, à mes 21 ans précis, je suis en mai, donc au mois de juillet, je suis rentré à La Réunion, illégalement, selon les critères militaires. Et là aussi, pareil, pistonné, j'avais un travail avant d'arriver. Donc c'est ça qui est l'avantage, puisque le chômage à l'époque, on ne connaissait pas. Dès qu'on avait un bac et surtout un DUT, de technique de commercialisation, les portes étaient ouvertes facilement. Et en arrivant ici, bon, parmi mes collègues, il y avait, comme on dit, un tamoul, un malbar. Mais au Lanzhou, à Paris, j'ai vu qu'il y avait des gens qui apprenaient le hindi. Moi, ça ne m'intéressait pas vraiment d'apprendre le hindi, mais ce qui m'avait surpris, c'était que sur l'écriture, sur les mots, il y avait un trait. Souvenu seulement de ce trait-là. Et donc, en retournant ici, quand j'ai rencontré ce collègue tamoul, j'ai demandé comment on écrit en tamoul. Il m'a fait quelques lettres en tamoul. Je lui ai dit non, il faut un trait dessus. Il dit non, ça c'est hindi. Voilà, j'ai commencé à faire la différence entre hindi et tamoul. Donc, j'ai voulu apprendre le tamoul. Et où apprendre le tamoul, sinon, dans une chapelle. Et donc, aller dans une chapelle étant créole, avec tout l'arrière, tout ce qui était refoulé, etc., c'était un petit peu difficile, mais j'ai quand même fait l'effort. Je suis allé au temple à Saint-Paul, et là, je dirais que j'ai eu une ouverture d'esprit vers une culture, vers une pratique religieuses différentes, mais qui, à mon avis, n'étaient pas, dans mon esprit bien sûr, contraires à ce que j'avais vécu auparavant. C'est vrai que les formes étaient différentes. J'avais aussi la crainte de, ben, toujours des esprits qui étaient là. Un jour, par exemple, il fallait rentrer dans le sanctuaire principal du temple et je voyais la statue avec ses yeux en or qui me regardait. Bon, ça, je dis, moi, je t'en veux pas, je t'adore, sois gentil avec moi, etc. quoi. Bon, je me suis habitué avec ces rites et puis les différentes cérémonies, comme on dit tamoul ou malbar à la Réunion, mais qui sont des cérémonies hindoues. J'ai participé à beaucoup de sacrifices d'animaux. Et un jour, devant un gigot de dindonneau, je pratiquais aussi le yoga à ce moment-là, j'ai décidé, devant un gigot de dindonneau, de devenir végétarien. Influencé par mon oncle, bien sûr, qui était magnétiseur anesthésiste à Saint-Paul, pour ceux qui l'ont connu, M. Jérôme Dallot à Saint-Gilles, plutôt. Il était un coiffeur d'âme aussi, un des premiers coiffeurs d'âme de Saint-Denis, à l'époque. Et donc, je pratiquais le yoga, j'ai commencé à prendre le tamoul, j'ai pratiqué les différentes cérémonies. J'ai porté le karadi, piqué les aiguilles sur le corps, dans la langue, dans la bouche, etc. Et lors d'une cérémonie de marche sur le feu à l'arrivée des galets, le prêtre m'a demandé si j'étais d'accord pour marcher sur le feu. Et bien sûr, imaginez un petit peu mon attitude, j'avais peur, bien sûr, de me faire brûler. Je dis non, non, non. Et juste avant de revenir de la rivière, il m'a dit, il est encore temps, tu peux encore un markup, on appelle ça un markup, c'est-à-dire on attache une sorte de bandeau, de ruban autour de son poignet, puis on peut marcher sur le feu. J'avais tellement la crainte, donc je dis non. Et ce jour-là, j'ai eu une expérience extraordinaire. En arrivant devant le feu, j'étais attiré par ce brasier, comme une aiguille est attirée par l'aimant. Pendant cette période aussi, j'ai commencé à fréquenter un groupe d'études, de textes de l'hindouisme au temple de Saint-Denis, qui était animé par un brahmachari mauricien, qui s'appelait à l'époque Brahmachari Pranava Chaitanya, qui venait régulièrement. Maintenant, il est Swami Pranava Pranavananda, il est responsable de l'ashram de Sainte-Suzanne. Et au fur et à mesure, donc, j'ai quitté l'aspect rituel pour intégrer l'aspect spirituel. Et ça, c'était dans les années 77, 78. Et en 1980, commençait une formation en Inde de 3 ans pour former des Brahmachari, pour former des aspirants, des enseignants, donc du Vedanta principalement. Et là aussi, les choses étaient favorables pour moi, puisqu'on était totalement pris en charge pendant 3 ans. Nourri, logé, éduqué, tout, sans rien débourser. Et donc je suis parti en Inde avec une préparation de 6 mois à l'île Maurice en 1979. Et en 1979 aussi, bon, on a eu un drame dans la famille, puisque j'ai une sœur qui a eu un cancer des poumons, donc elle a souffert pendant des mois et des mois. Je l'ai accompagnée, j'ai quitté Maurice, je suis revenu à la Réunion, je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Et après, je suis parti, même malgré que ma mère était dans une situation matérielle très très difficile. Donc j'ai fait 3 ans d'études en Inde, je suis retourné à la Réunion en 1983. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'enseignants d'hindouisme dans les temples. Et les gens m'ont demandé si je pouvais enseigner l'hindouisme. C'est comme ça que j'ai été un des premiers enseignants à aller dans les temples depuis Saint-Benoît jusqu'à Saint-Pierre, en passant par Saint-Paul, Saint-Denis, etc. J'étais bien accueilli parce qu'avant de partir en Inde, les gens me connaissaient dans les temples. Donc je n'étais pas quelqu'un qui arrivait comme ça. Et donc ils ont vu mon parcours religieux, mon parcours spirituel aussi. Et donc comme ça, je suis devenu plus intégré dans la communauté hindoue parce que j'avais un rôle d'enseignant. Et comme je vous dis, bon, je ne suis pas accepté vraiment dans cette communauté. Je pense que je suis plus toléré parce que je suis enseignant. Si on est en enseignant, ça va. Si on n'est pas enseignant, je crois que c'est un peu plus difficile. Ça, c'est la culture, l'histoire, etc. qui le veut. Et donc, dans ce cheminement-là, bon, ben, j'ai eu différentes expériences dans la vie, comme tout le monde. Et notre but, c'était bien sûr d'avoir un centre, d'avoir un ashram où on pourrait enseigner les textes de l'Inde et la langue classique de l'Inde. Je préfère le terme langue classique que langue sacrée parce que ce n'est pas seulement une langue sacrée, une langue classique de l'Inde, c'est le sanskrit. Pendant un moment, ben, j'habitais à droite et à gauche et après, j'ai pu acheter une petite case dans un bidonville de la Ravine Marquée. Et là, on a commencé le noyau de l'ashram à la Ravine Marquée. Et dans la ville du port, il y avait un terrain qui était disponible, mais qui était abandonné. Bon, j'ai su qu'il était possible encore de récupérer ce terrain qui avait été promis verbalement à la communauté musulmane du port par M. Paul Vergès, qui était maire du port à l'époque, puisque le terrain était abandonné. Donc, bon, il fallait faire quelque chose dans cette zone cultuelle du port, puisque les autres églises étaient déjà construites. Et quand j'ai su ça, bon, j'ai commencé à envoyer une lettre à M. Paul Vergès en lui disant, ben, ce terrain appartient à la communauté hindoue, il n'y a pas de raison que ça soit donné à une autre communauté, d'autant plus que lui-même, il était engagé dans un problème politico-religieux dans le temple de Nyanapragasin, qui est au milieu de la quatre voies de Saint-André, là, comme il était engagé là-bas, donc il ne pouvait pas non plus se dégager ailleurs. Mais comment dégager M. Paul Vergès de sa parole? À l'époque, la parole de M. Paul Vergès à la mairie du port, c'était parole d'évangile, parole de Véda, parole de Coran réunis. Donc c'est pour moi très important. Par l'aide de M. Hamoud Hussein et différentes personnes, on a trouvé une solution, c'est que la communauté musulmane du port renonce au terrain et propose à ce que ça soit donné à l'Ashram. Bon, il y avait un problème maintenant d'accès à ce terrain qui appartenait à une association tamoule. Cette association n'existait plus en réalité. Et il y avait toujours le président qui est ici, M. Ponapin qui est ici. Et donc, il fallait refaire une assemblée générale. Donc, on a refait une assemblée générale. Et là, bon, ben, on est devenu membre de l'assemblée générale. On a modifié les statuts. Et puis, on a commencé à construire, à occuper le terrain auparavant et ensuite à construire l'ashram. Et comme ça, au fur et à mesure, ben, mon parcours spirituel à continuer, puisque je suis jusqu'à maintenant un enseignant d'hindouisme. Alors mon but, c'est pas seulement d'enseigner l'hindouisme aux hindous, mais aussi de faire comprendre l'hindouisme à ceux qui souhaitent comprendre l'hindouisme, sans forcément avoir cette notion de conversion. Les cours sont ouverts à tout le monde, donc les cours sont là pour qui veut apprendre, soit le sanskrit, parce qu'on a aussi des séances de yoga, etc. Donc ce qui fait que ça m'a fait une ouverture qui, à mon avis, participe de mon évolution spirituelle. Et cette évolution spirituelle, je trouve ça l'avantage, je dirais, de ma démarche, c'est qu'à aucun moment, j'ai eu à renier mon passé. C'est pour ça, lorsqu'on parle de conversion, pour moi, ce n'est pas vraiment une conversion, c'est une évolution. Parce que bien souvent, lorsqu'on parle de conversion, on doit renier son passé. Dans certaines traditions, vous le savez, lorsqu'on se convertit à une tradition, on doit oublier ce passé. Le passé, on doit changer, on doit faire des rites, je dirais, pour intégrer cette nouvelle religion, cette nouvelle organisation. Ce n'est pas du tout le cas dans l'hindouisme. J'ai été initié en tant que brahmachari, c'est-à-dire il y a une cérémonie effectivement, mais à aucun moment on nous demande de renoncer à notre passé, de ne renoncer à quoi que ce soit. Et en même temps, j'ai découvert dans cette démarche-là la spiritualité d'une façon générale. Que ce soit chez un musulman, que ce soit chez un chrétien, que ce soit chez un hindou, que ce soit chez un athée, lorsqu'il y a la beauté, il y a la beauté. Ça m'est arrivé, par exemple, de voyager de Paris à La Réunion avec des écouteurs branchés, avec des chants de Nusrat Fateh Ali Khan, qui est un chanteur musulman soufi du Pakistan, malheureusement décédé. J'étais un grand fan de Nusrat Fateh Ali Khan. Et il m'arrive d'écouter aussi des chants chrétiens, il m'arrive aussi d'écouter, de chanter des chants chrétiens. Pas plus tard que cet après-midi, j'avais fait une demande de disque sur Radio Arc-en-Ciel. Un de ces disques, c'était la Litanie des Saints. J'ai dédié ça à ma mère. Donc la Litanie des Saints par Daniel Fasséries. Parce que lorsqu'il y a une beauté, c'est universel. Et je crois que la spiritualité nous amène vers cette universalité. Je crois que c'est vraiment très important. Et bon, mon parcours spirituel n'est pas terminé, puisque je ne suis pas encore réalisé, je ne suis pas un grand sage. Comme vous dites, dans la vie, il y a deux choses, il y a les sages et les singes. Je me situe plutôt au niveau des singes que des sages. Et donc, on verra bien. Alors, comment expliquer ce parcours dans l'hindouisme? On dit que on a ses vies antérieures. Et un jour, en Inde, quelqu'un m'a dit, tu as dû faire de très graves péchés pour aller naître dans ces pays dehors, ces pays étrangers, qu'on appelle les pays barbares, inconnu de l'Inde, parce qu'eux considèrent seulement l'Inde qui est pure, et ailleurs c'est impur. Dans l'étude des textes sacrés, qui sont parfois réservés à la caste supérieure, à la caste brahmanique, À Bombay, par exemple, bon, je demandais à intégrer un groupe d'apprentissage du texte sacré. On m'a dit non, 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 tu n'es pas brahmine, donc tu n'es pas pur. Et mon ami qui était brahmine, il a demandé à ces gens-là, bah, écoutez-le avant et vous jugerez après. Ils m'ont écouté, ils ont dit, ben oui, tu peux venir à nos cours, donc c'est ouvert à toi. Donc, ce qui fait qu'on voit qu'il y a cette ouverture-là. Et bien sûr, en intégrant le groupe de dialogue interreligieux ici, ça complète, je dirais, ma démarche, puisqu'on est là dans un esprit de dialogue. Et à aucun moment, il y a eu de critique ou de dispute entre nous, puisqu'on est vraiment dans l'esprit de dialogue. Je crois que c'est une très grande richesse.